Bien-aimés du Seigneur, nous arrivons maintenant à notre troisième étude sur le sujet général, l'époux et l'épouse. Et ce soir, notre chapitre peut s'intituler « L'indispensable fidélité de l'épouse à l'époux ». Nous avons mis en évidence que l'Église était l'épouse et qu'elle se trouvait actuellement dans la situation, plus exactement, d'une fiancée. Mais fiancée ou épouse, la nécessité d'une totale fidélité à l'époux est évidemment très apparente, fidélité totale de l'épouse à l'époux. La Bible nous parle beaucoup des infidélités du peuple d'Israël. Et en effet, l'Ancien Testament est rempli de dénonciation par les prophètes des infidélités du peuple de Dieu. Les termes sont là, vraiment rudes. Ce sont infidèles, infidèles Israël, rebelles, peuple aux cours roides, les impudicités du peuple, les prostitutions du peuple, ses adultères, abominations, dissolutions. Voilà le vocabulaire qui est employé par l'Ancien Testament pour signaler, dénoncer les infidélités du peuple de Dieu. Et nous allons voir tout de suite quelques exemples de sévères admonestations ou reproches de Dieu par la voix de ses prophètes. Je vais prendre d'abord Jérémie, le prophète Jérémie. Il me paraît nécessaire que nous voyions rapidement ses reproches. Jérémie, chapitre 2, et verset chapitre 2, verset 1er. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Va, écris aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé. Quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte, Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. » Voyez, à ce moment, le peuple d'Israël était lui-même considéré comme fiancé à son Dieu. Position qui est celle de l'Église maintenant. Et dans cette position, Israël a été infidèle. Au verset 5, « Ainsi parle l'Éternel, quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant ?» Ils n'ont pas dit « Où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs n'ont pas dit « Où est l'Éternel ?» Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après eux. Ils ne sont d'aucun secours. Vous voyez comme ces reproches sont véritablement cinglants. Au verset 12, « Cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Donc ça, c'est véritablement l'infidélité notoire. Ils ont abandonné l'Éternel, lui qui avait dit « ton Créateur est ton époux ». Nous avons encore bien d'autres reproches dans ce livre de Jérémie, mais je voudrais tout de suite passer au livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 16. Ézéchiel, chapitre 16. Alors là, nous voyons encore sous-jacent dans cette prophétie, nous voyons le thème de l'époux et de l'épouse. C'est véritablement Dieu qui prend place ici d'époux à l'égard de son peuple et qui parle de lui comme d'une épouse infidèle, comme d'une femme prostituée. Je lirai juste quelques passages au verset 2 du chapitre 16. « Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan, ton père était un Amoréen et ta mère une Éthienne. » À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Au verset 6, « Je passais près de toi, je t'aperçus, baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang, je te dis, vis dans ton sang. » Je t'ai multiplié par 10 000 000 comme les herbes des champs, et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais, et voici ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. » Nous voyons évidemment dans ce langage aussi l'évocation de l'âme humaine dans le temps même présent de la Nouvelle Alliance, l'âme humaine qui est trouvée dans son indignité, dans sa souillure, dans son péché, dans sa vie naturelle d'homme ou de femme pécheur, et le Seigneur passe près de cette âme et a pitié d'elle, la lave, la nettoie et se l'attache à sa personne. Voilà, bien sûr, l'évocation de la miséricorde de Dieu dans l'œuvre de la rédemption. Donc, une femme prostituée. Nous avons toujours, vous voyez là, ce thème du mariage, de l'union de Dieu avec son peuple. Les reproches qui sont adressés par l'Éternel à ce peuple prennent le nom de prostitution, nous l'avons dit, d'impudicité, mais en fait ces termes sont essentiellement employé dans un sens qui n'est pas le sens littéral. Ce sont des infidélités qui consistent en l'établissement de hauts lieux, en l'idolâtrie, en la construction de maisons de prostitution. Bien sûr, dans l'idolâtrie du peuple d'Israël, il y avait aussi la prostitution dans un sens littéral. Mais enfin, ce que Dieu appelle essentiellement abomination, prostitution, impudicité, c'est l'infidélité consistant à se détourner de Dieu et à se livrer à l'idolâtrie. L'idolâtrie est la chose que Dieu abhorre par au-dessus de tout autre, l'idolâtrie. Dieu est un Dieu jaloux. Il est l'époux, il est un époux jaloux, un Dieu jaloux, c'est-à-dire un Dieu exclusif qui veut que toute âme qu'il a appelée lui appartienne et n'appartienne qu'à lui. Cela pour le bonheur même de cette âme, pour le bonheur même du peuple. Nous avons encore un autre chapitre sur les abominations d'Israël, c'est le chapitre 23 d'Ézéchiel. Chapitre 23, je lirai d'abord versets 1 à 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, il y avait deux femmes, filles d'une même mère. Elles se sont prostituées en Égypte. Elles se sont prostituées dans leur jeunesse. Là, leurs mamelles ont été pressées. Là, leur sein virginal a été touché. L'aînée s'appelait Ohola et sa sœur Oholiba. Elles étaient à moi. Elles étaient à moi. Et elles ont enfanté des fils et des filles. Ohola, c'est Samarie. Oholiba, c'est Jérusalem. Ohola me fut infidèle, elle s'enflamma pour ses amants, les Assyriens, ses voisins. Vous voyez donc, cet adultère est un adultère de relation avec des peuples païens, dont malheureusement le peuple de Dieu empruntait les pratiques, les traditions idolâtres. C'est cela que Dieu dénonce. Et puis, nous avons aussi au verset 17, nous pouvons lire au verset 17, et les enfants de Babylone se rendirent auprès d'elle pour partager le lit des amours, et ils la souillèrent par leur prostitution. Elle s'est souillée avec eux, puis son cœur s'est détaché d'eux. On a mis à nu son impudicité, elle a découvert sa nudité, et mon cœur s'est détaché d'elle, comme mon cœur s'était détaché de sa sœur. Elle a multiplié ses prostitutions en pensant aux jours de sa jeunesse lorsqu'elle se prostituait au pays d'Égypte. Elle s'est enflammée pour des impudiques dont la chair était comme celle des âmes et la proche comme celle des chevaux. En Égypte, déjà en effet, le peuple d'Israël, qui était là dans sa phase de constitution, le peuple d'Israël s'était déjà livré à l'idolâtrie et avait adoré les faux dieux des Égyptiens. Donc c'est cela que dans le langage biblique, le Seigneur appelle la prostitution ou l'adultère. Adultère spirituel, si l'on veut, enfin l'adultère de comportement, d'infidélité à l'égard de Dieu et à l'égard de l'Alliance. L'infidélité, en somme, oui, se reporte sur Dieu, mais c'est une infidélité à l'alliance qui avait été traitée entre Dieu et son peuple, une alliance. Nous avons aussi dans ce même registre l'histoire que le prophète Osée raconte lui-même et qui est la sienne. Voici en effet ce qu'il dit tout au début, au verset 2 du chapitre 1er. « La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. » Là, Dieu veut que son prophète se trouve, lui, personnellement, placé dans une situation critique, qui est l'image qui sera l'égale de la situation dans laquelle l'Éternel Dieu se trouve vis-à-vis de son peuple. Son peuple se prostitue, son peuple est la fiancée, lui il en est l'époux, et voilà que le peuple s'est prostitué. Alors, pour montrer ces choses, pour les montrer du doigt, pour les désigner d'une façon ostensible, évidente, on peut dire même criante, alors Dieu va demander à ce prophète de se placer lui-même dans la même position que lui et d'épouser une femme prostituée qui aura des enfants de prostitution. Dans le chapitre 2 et au verset 4, « Plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme, et je ne suis point son mari, qu'elle ôte de sa face ses prostitutions et de son sein ses adultères. Sinon, je la dépouille à nu, je la mets comme au jour de sa naissance, je la rends semblable à un désert, à une terre aride, et je la fais mourir de soif. » Voici donc les infidélités, nous avons là un aperçu de toutes ces remontrances de Dieu par les prophètes à l'adresse du peuple d'Israël et particulièrement des peuples de Samarie et de Jérusalem, les deux capitales des deux royaumes d'Israël, le royaume des 10 tribus d'une part et le royaume de Juda d'autre part. Eh bien, ce qu'on peut dire, chers amis, il faut être juste. J'ai souvent entendu prêcher, parler, j'ai lu des livres qui utilisent tout ce que nous pouvons apprendre ainsi dans l'Ancien Testament, des détournements d'Israël, de ses dissolutions. C'est évidemment quelque chose qui vous fait frémir, et l'on pense souvent, mais enfin tout de même, ils étaient le peuple de Dieu. Dieu était pour eux un ami, Dieu les comblait. Ne pouvaient-ils donc pas être fidèles? Ne voyaient-ils donc pas que c'était de leur Dieu, du Dieu vivant, qu'ils recevaient vraiment tous les biens qu'ils pouvaient désirer, qu'ils les faisaient vivre, qu'ils les faisaient prospérer, qu'ils les mettaient en sécurité? Alors pourquoi se détourner? Pourquoi aller vers des idoles? On se pose ces questions. Mais nous pouvons aujourd'hui répondre à cela ceci. La chrétienté n'a pas fait mieux qu'Israël. Je dis la chrétienté pour ne pas dire l'Église, parce que je veux englober évidemment tout ce qui est provenu de l'Église primitive, tout ce qui en est dérivé, qui porte maintenant le nom d'Église. Mais disons que la chrétienté n'a pas mieux fait, et que si elles sont d'un autre ordre, les prostitutions, les abominations, et qui ont jalonné les siècles de l'Église, ne sont pas meilleures, loin de là, loin de là. Et ce n'est pas la peine de préciser, bien sûr, vous voyez bien comment les traditions sont nées, comment l'idolâtrie a réapparu sous tant d'autres formes, et comment aujourd'hui encore, elle est là en honneur. Eh bien, bien sûr, il y a aujourd'hui une Église, et nous désirons être celle-là, qui s'efforce de ressembler à l'Église toute primitive et qui s'efforce d'apporter à Dieu sa fidélité. Mais nous avons toujours à veiller, et nous avons nous-mêmes aussi à considérer nos voies. Nous avons beaucoup encore de progrès à réaliser. Voyons ce qu'est la nouvelle alliance, l'alliance que nous appelons l'alliance de la grâce de Dieu, nouvelle alliance fondée sur le sang rédempteur. Cette nouvelle alliance est vraiment l'alliance de la grâce, parce que dans l'ancienne alliance, il s'agissait d'accomplir, d'observer les commandements et les ordonnances que Dieu avait promulguées par Moïse. Il s'agissait d'observer ces commandements. La loi était extérieure et la loi sollicitait l'Israélite d'être obéissant aux commandements de la loi. Mais maintenant, la nouvelle alliance est autre chose. Dans la nouvelle alliance, il s'agit d'une union avec Christ. Le salut, aujourd'hui, c'est cela. Aujourd'hui, le salut, c'est de croire en la personne de Jésus-Christ et par la foi qui est puissante, qui le peut, qui a ce privilège, eh bien, c'est d'être, d'entrer dans une relation avec Jésus-Christ. C'est d'être uni avec Jésus-Christ, c'est d'être un avec lui, d'être dans la connaissance du Fils de Dieu pour être aussi dans la connaissance du Père. Le mariage humain, qui nous l'avons dit, doit toujours être le reflet de l'amour de Dieu, allez pouvoir retrouver dans la nouvelle alliance sa pureté édénique. C'est l'alliance de la grâce qui apporte le pardon et le don de la vie, qui est traitée avec l'époux lui-même, alliance traitée avec l'époux lui-même, qui est présent, qui a été présent et qui a été visible lors de l'institution de la Sainte Cène. Il était là avec les 12, c'est-à-dire ceux qui constituaient le fondement de l'Église, et ils traitaient alliance. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Les termes employés dans l'Écriture pour l'alliance sont, je le rappelle, ceux-ci: conclure alliance, établir alliance, faire alliance ou traiter alliance. On traite une alliance. Traiter une alliance comme on traite un contrat. Un contrat. Et chose extraordinaire, l'Écriture nous met, nous place devant la réalité, en effet, la réalité courante de l'établissement d'un contrat entre deux personnes. Ce contrat se traite devant quelqu'un qui représente le pouvoir, qui représente l'autorité. Ce quelqu'un s'appelle un officier ministériel, un notaire, généralement un notaire. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Un contrat a été établi, en effet, entre le peuple de Dieu, qui a été pour cela représenté, et le Seigneur lui-même. Celui qui a représenté le peuple de Dieu, c'est celui qui est appelé dans le Nouveau Testament le Père des croyants. Celui dont la postérité est précisément aujourd'hui l'Église. Elle n'est pas seulement sa descendance, la postérité. Pour être la postérité d'Abraham, il faut, nous dit l'apôtre Paul, être élu, être nommé en Isaac, le fils de la promesse. Ainsi donc, le père des croyants, le point de départ de la postérité que Dieu voulait développer, c'est Abraham. Et Abraham s'est trouvé à un certain moment, je lis cela dans le chapitre 14 de la Genèse, et au verset 17, il s'est trouvé en présence d'un personnage très mystérieux, nommé Melchisédek. Je lis au verset 17. « Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Voilà ce récit très bref qui nous montre pourtant un événement excessivement considérable, un événement très considérable dont nous parle un peu plus longuement l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux dans son chapitre 6, et je veux lire au verset 13 du chapitre 6 des Hébreux. « Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. » Ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. On ne pouvait pas trouver d'officier ministériel représentant la puissance publique au-dessus de Dieu. Il n'y a personne au-dessus de Dieu. C'est le pouvoir suprême, c'est la souveraineté suprême. Alors, Dieu, comment, pour traiter avec Abraham, qui va-t-il mettre entre les deux? Qui va-t-il faire venir? Quel est le notaire? Quel est l'officier ministériel? Eh bien, c'est Melchisédek, qui ne peut pas être supérieur à Dieu, mais qui peut venir avec le pouvoir de Dieu. Alors, je lis donc ceci. « Il jura par lui-même et dit certainement, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. » Je répète, nous sommes l'Église, la postérité d'Abraham. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand que, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution intervint par un serment afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Ainsi, lorsque Melchisédek vint au devant d'Abraham, ce fut pour apporter un serment. Un serment, et il y avait là deux personnes qui traitaient alliance, ces deux personnes étaient Dieu. Dieu, qui à ce moment-là n'était pas visible, si vous voulez, et puis Abraham. Et Melchisédek, en somme, était, lui, l'officier ministériel, ou, pour illustrer, je dis, le notaire, qui est censé avoir un pouvoir supérieur aux deux personnes qui traitent ensemble. Il est bien dit, d'ailleurs, que c'est l'inférieur, nous avons cela dans le texte, l'inférieur qui est soumis au supérieur. Alors, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, ça n'existe pas, Dieu jura par lui-même. Et Melchisédek, dans cette logique, nous est donc présenté comme roi de justice, roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Il est rendu semblable au Fils de Dieu. Il est rendu semblable. Pourquoi rendu semblable? Parce que le Fils de Dieu, c'est la parole de Dieu faite chair. Or, ce n'était pas le moment qu'elle le fût. L'incarnation n'était pas encore venue. Et cependant, il fallait que ce soit la parole de Dieu, mais vue d'avance dans cette mission de Messie, de Fils de Dieu. Et alors, Melchisédek vient là, il est, disons, si nous voulons emprunter un terme à la théologie, nous dirons il est une théophanie, une manifestation de Dieu. Une manifestation de Dieu. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Et ainsi, l'alliance a été scellée là, par une première sainte scène. Une sainte scène qui annonçait à l'avance que Dieu s'engageait à apporter un sacrifice. Melchisédek était un sacrificateur du Dieu Très-Haut, rendu semblable au Fils de Dieu, n'oublions pas cela. Donc le serment consistait à apporter à Abraham, pour sa postérité, pour nous par conséquent, le peuple juif aussi qui entra dans la postérité d'Abraham, et puis pour nous, à nous apporter l'assurance que Dieu pourvoirait à l'expiation du péché par une sainte victime, par une victime. C'est Dieu qui s'engageait à pourvoir à la victime qui ferait expiation pour les péchés. Voilà, chers amis, ce qu'a été ce que j'appelle le contrat de mariage, autrement dit l'union, l'alliance. Le contrat qui est nouvelle alliance a donc pris toute sa réalité à la venue du Seigneur Jésus et essentiellement lorsque le Seigneur Jésus a pu dire cette coupe au moment de l'institution de la scène, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. C'était l'accomplissement du serment apporté à Abraham par Melchisédek. Le contenu de l'alliance, eh bien, je pense que nous le connaissons, j'irai très vite, c'est une alliance de vie et de paix, une alliance de communion. Le Seigneur nous a appelés à la communion de son Fils. il vous a appelé à la communion de son Fils. Dans l'Épître aux Hébreux, qui reprend une prophétie de Jérémie, il est dit que dans le cadre de cette nouvelle alliance, personne ne dira à son voisin « connais l'Éternel », car tous me connaîtront, c'est-à-dire tous seront dans l'union avec moi. Connaître Jésus, connaître Dieu, c'est l'équivalent d'être en union, en communion. C'est connaître intimement. Dans la prière sacerdotale de Jean 17, le Seigneur dira « afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. » Voyez, l'union. Cette nouvelle alliance est une alliance d'union. C'est pourquoi elle est l'alliance de la grâce. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Parce que nous avons été unis à Christ, à une personne, à la personne de Christ. Nous ne sommes plus sous la loi, sous le régime de la loi. La loi ne pouvait rien amener à la perfection, mais nous sommes unis à Christ, et c'est dans cette union que nous aurons tous les moyens d'arriver à la pleine fidélité à notre Dieu. Toute la parole de Christ entre dans les clauses de l'alliance, c'est pourquoi le Seigneur demande à l'épouse de garder sa parole, dans le sens, surtout, d'observer sa parole. Je rappelle les paroles du Seigneur, « Si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra pas. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Et puis, dans la première épître de Jean, « L'amour est parfait en celui qui garde la parole du Seigneur. » Je voudrais dire rapidement ceci, c'est que lorsque on médite ces merveilleuses écritures, on les médite, elles nous sont données pour la méditation, n'est-ce pas? Eh bien, on relève quelque chose de délicieux. C'est que l'Église, épouse de Christ, corps de Christ, a pour vocation la fidélité la plus grande. C'est notre vocation céleste. Nous allons vers les noces. Nous sommes fiancés à Christ. Il nous faut, par conséquent, une fidélité entière. Et puis, l'Église est vue comme belle. Elle est belle comme son Seigneur. Lui est le plus beau des fils de l'homme. Psaume 45, le plus beau des fils de l'homme. Mais pour l'Église, il est dit, « Tu devins d'une beauté parfaite. » Et encore, ta renommée se répandit à cause de ta beauté. Et puis dans le Cantique des Cantiques, que tu es belle, mon ami. Cela par Salomon à la Sulamite. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tu es toute belle, mon ami. Alors, l'Église est vue comme belle. Et il ne faut pas, chers amis, que des défigurations l'atteignent. Il ne faut pas qu'elle soit défigurée. L'Église est ce que Dieu veut. Elle est cela. Et nous avons à veiller à ce qu'aucune défiguration ne vienne altérer cette beauté. Ne faudrait-il que Dieu ait à dire maintenant, comme il a dit à Jérusalem, « Tu as déshonoré ta beauté ». Tu as multiplié tes prostitutions. Et nous pourrions nous demander, mais comment l'Église peut-elle être infidèle à l'Alliance et par conséquent infidèle à son époux? Eh bien, je vais vous donner rapidement quelques traits de l'infidélité à craindre et à éviter. L'infidélité pour l'Église serait d'abord d'altérer ou de falsifier la parole de Dieu. Altérer ou falsifier. On nous a lu à midi au home, après le déjeuner, justement un texte qui nous montre bien que le Seigneur Jésus est pointilleux sur la parole de Dieu. Et il ne peut pas tolérer que l'on annule la parole de Dieu pour y substituer une tradition d'homme. Et cela peut se faire, malheureusement. Et pourquoi l'Écriture insiste en nous disant « Ne recevez pas un autre évangile, ne recevez pas un autre Jésus que celui qui vous a été annoncé ». Voilà donc là une voie, hélas, d'infidélité. L'infidélité peut consister aussi à supprimer, en fait, l'un des plus petits commandements. Le Seigneur ne veut pas que l'on supprime l'un de ses plus petits commandements. Il a parlé de commandements dans l'évangile de Jean, ne l'oublions pas. Il ne veut pas, dans Matthieu, chapitre 5, que soit touché à l'un de ses plus petits commandements. Si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Il y a aussi comme infidélité le fait de se mettre avec des infidèles sous un joug étranger, d'entrer dans des relations avec des infidèles sous un joug étranger, c'est-à-dire sous un joug qui ne peut être qu'inégal. Le sens est cela, un joug inégal. Imaginez deux bœufs attelés ensemble, ayant un joug. Alors si l'un est en retrait par rapport à l'autre, le joug sera de travers. Et c'est l'image qui nous est donnée pour nous montrer ce que peuvent être certaines alliances, certains accords avec des infidèles. Chers amis, attention, nous sommes dans le monde pour annoncer l'Évangile. Nous sommes dans le monde pour apporter la miséricorde de Dieu. Mais par quel moyen ? Par la prédication de l'Évangile. Par la prédication de l'Évangile, pas autrement. Par le témoignage de Jésus. On peut être infidèle en cherchant à paraître juste, en voulant quelquefois se justifier soi-même. Nous avons là des passages des évangiles qui nous montrent ce tort-là. On peut être infidèle en étant défaillant dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Dans le chapitre 6 de l'évangile selon Luc, nous avons cette parole qui m'a toujours beaucoup impressionné. Parole du Seigneur Jésus, la voici. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ? Chers amis, quel soin, quelle vigilance ne faut-il pas apporter par conséquent à cela ? La mise en pratique, l'observation exacte de la parole de Dieu. Et l'on pourrait poser cette question en somme. À qui l'encens ? À qui fait-on monter l'encens ? Vers qui fait-on monter l'encens ? Vers le monde ? C'est au monde que nous donnons, que nous accordons notre encens ? Est-ce à nous-mêmes ? Est-ce à ce qui plaît à notre chair ? Est-ce à un mammon ? Attention, mammon, ce n'est pas seulement la haute fortune. Mammon, c'est aussi le doux confort, la douceur d'une vie que l'on goûte, une vie matérielle, surtout que l'on goûte. Est-ce à mammon que nous faisons, vers mammon que nous faisons monter l'encens, ou vers Dieu ? L'encens est à Dieu. C'est-à-dire que nous devons nous attacher à Dieu. C'est Dieu que nous devons adorer et aimer, lui seul. L'Église doit réserver l'encens à Dieu et lui donner gloire et obéissance en ne prenant sur la terre ce qui ne fait pas, que ce qui ne fait pas obstacle à la communion, à l'union, à la relation avec le Maître. Tout ce qui ne fait pas obstacle, oui, alors nous en usons sur la terre. Mais attention, ne pas prendre, ne pas s'attacher, ne pas désirer, ne pas convoiter, tout ce qui pourrait faire obstacle à notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Et en conclusion, nous dirons ceci, il faut, chers amis, que chacun de nous, membre de l'Église, et par conséquent de l'Église épouse, membre du corps de Christ, nous sommes ensemble l'épouse de Christ, qui doit paraître devant lui comme une vierge pure. Il faut absolument que nous entendions les conseils de vigilance de notre Seigneur et Maître. Veillez et priez en tout temps. Vous ne pouvez pas tenir debout si vous ne veillez et priez. Et veiller, c'est précisément veiller à la fidélité la plus entière. Le Seigneur l'épouse ne peut épouser qu'une vierge pure. Dites-moi, peut-il épouser une autre? Non, une vierge pure. Je vous ai fiancé à Christ pour vous présenter à lui comme une vierge pure. Que l'Église épouse veille donc sur sa voie tous les jours, à tous les instants, qu'elle mette toute sa confiance dans son Seigneur pour être sainte, irrépréhensible. Vous les avez lus, ces termes-là, dans l'Écriture. Irrépréhensible, irréprochable, sans rien, aucune ride, rien de semblable. Au jour du Seigneur, irréprochable au jour du Seigneur. Mais le jour du Seigneur, savons-nous comment il est situé dans le temps? Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. Pour être irréprochable au jour du Seigneur, Dieu veut préserver son Église de toute chute. C'est l'épître de Jude qui nous l'affirme. Préserver l'Église de toute chute et la faire paraître devant sa gloire irrépréhensible dans l'allégresse. Oui, le Seigneur le peut. Oui, le Seigneur nous promet sa protection. Il nous promet sa garde. Parce que tu as persévéré, tu as gardé la parole de persévérance en moi, tu as persévéré en ma parole, alors moi aussi je te garderai à l'heure de la tentation et qui va venir s'étendre sur ce monde, tentation ou séduction. Nous sommes en plein dans un temps de séduction terrible. Le monde est maintenant regorge de tentations et de séductions. Alors, chers amis, attention, nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde pour apporter la parole du salut. Mais nous ne sommes pas du monde, comme notre maître, lui, n'est pas du monde. Attention, par conséquent, à ce nivelage qui tend quelquefois à se reproduire avec le monde. Nous ne pouvons pas être de plein pied avec le monde. Nous ne pouvons pas ressembler au monde. Ce n'est pas possible, cela. Ce ne serait pas la fidélité. Pensons à cette fidélité qui nous est demandée. Dieu peut nous préserver de toute chute. Et Pierre, je terminerai par cette citation. L'apôtre Pierre nous dit dans sa seconde épître, appliquez-vous à être trouvé irrépréhensible. Irrépréhensible, ce n'est pas quelque chose de moyen, ce n'est pas quelque chose d'intermédiaire, c'est quelque chose qui est digne de l'époux. Irrépréhensible, irréprochable, une vierge pure. Voilà ce qui nous est enseigné. Nous le pouvons. Nous avons le Seigneur pour cela. Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes, mais le Seigneur nous sanctifie à condition que nous soyons, nous, consacrés. Consacrés. De notre côté, c'est la consécration. La consécration de l'épouse qui attend son époux, qui a hâte de voir son époux, de le rencontrer, qui a hâte de paraître habillé de fin lin aux noces de l'agneau. Alors, appliquons-nous à être trouvés irrépréhensible. Je pense, chers amis, vous voyez que cette étude nous conduit à reconsidérer, chacun doit le faire pour soi, reconsidérer notre vie chrétienne, notre marche. N'y a-t-il pas de la lassitude? N'y a-t-il pas, est-ce que nous ne traînons pas un peu les pieds? Est-ce qu'il n'y a pas des habitudes qui nous voilent véritablement le véritable objectif, et qui est de veiller et de prier et d'être prêt en tout temps à rencontrer l'Époux? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen.